nous allons passer à l'intervention de Jean Bléron. La qualité au sens de l'éducation populaire, ça veut dire quoi? En quoi cette question peut-elle mettre en tension les associations, les acteurs de l'éducation permanente et plus largement les acteurs de l'éducation non formelle? Donc premier temps d'intervention, ensuite ce sera monsieur Laloy et ensuite un temps de discussion. Voilà, la parole à Jean.
Bonjour à tous. J'étais désolé de ne pas être des vôtres ce matin, mais je remercie Aurélie de m'avoir fait un compte-rendu des échanges par rapport auxquels je pense que je vais apporter un point de vue non seulement différent, mais contradictoire, en fait. Mais nous sommes dans un séminaire, et donc c'est bien de la confrontation des points de vue que nous pouvons attendre, me semble-t-il, que se déploie une intelligence collective à propos de ces questions difficiles. Voilà. Alors, ma thèse globale sera la suivante. L'éducation non formelle a pour mission, je reprends la formule de Pierre Bourdieu, de défaire ce que le monde social a fait. Et j'entends par là la production d'inégalités et le déploiement d'une domination. Et le rôle de l'éducation informelle, me semble-t-il, dans l'alphabétisation, est bien de défaire ce que ce monde social a fait. Et je pense qu'elle n'a aucune chance d'y arriver en procédant de la même façon que le monde a fait pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle ce que je vais appeler la créature qualité me paraît dans ce contexte contre-productive, d'une part, et d'autre part, me paraît risquer une dépossession, de produire une dépossession du sens de l'action dans le chef même des acteurs et des participants. Voilà, c'est la thèse que je vais essayer de défendre. Alors, je la défends à partir du titre que l'on m'a proposé, donc la qualité au sens de l'éducation populaire, ça veut dire quoi? Et je voudrais vous dire immédiatement qu'il m'a semblé qu'il ne fallait pas se précipiter de façon excessive dans la réponse de ça veut dire quoi, en omettant de s'interroger sur la manière dont on va produire le sens qui va permettre de répondre à cette question. Parce que pour répondre à une question sur le sens d'une pratique comme l'éducation non formelle, souvent, les façons les plus habituelles de poser la question sont absolument inappropriées. Et la façon dominante de poser cette question est celle que Pierre Bourdieu a critiquée en l'appelant l'attitude objectiviste, et je voudrais la dénoncer. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la superbe citation de Pierre Bourdieu au tableau. Donc, ce qu'il appelle l'objectivisme, c'est un geste qui, pour analyser une pratique, la coupe de l'environnement qui lui donne sens, la constitue comme un objet d'observation extérieur à l'observateur, et dans lequel l'observateur a quelque peu tendance à, si vous voulez, importer des principes qui sont les siens et qui ne sont pas d'office présents dans la dite pratique. Pierre Bourdieu est assez dur, et je partage son point de vue, en disant que lorsqu'on procède de la sorte, vous voyez, on isole une pratique, on commence à l'observer, à la scruter, mais en restant bien extérieur. Lorsque l'on fait ça, on adopte en fait, ça va toujours, vous m'entendez, on adopte en fait l'expression d'une position sociale dominante. Et je dois me rapprocher plus, moins. Donc, cette expression sociale dominante, ça va comme ça pour vous, c'est confortable. Donc, finalement, transforme ce que l'on observe en une exécution, en un rôle de théâtre. Et Pierre Bourdieu parle d'une exécution de partition ou d'une application de plan. Et voilà, vous voyez, c'est bien ça l'importation du sens immédiat. Lorsque l'on procède de la sorte sur une pratique, eh bien, on a tendance à la considérer d'office dans une logique d'exécution d'un plan établi au préalable, ce que je vais essayer de démontrer comme étant absolument inacceptable. Et donc, voilà un peu ce que je voudrais éviter de faire. Hein. Donc, penser de l'extérieur un objet, prétendre qu'il suffit de le connaître pour le décrire, le transformer en exécution d'un programme et le penser au départ d'une position sociale dominante qu'on oublie d'ailleurs de définir comme telle. Alors pour éviter ça, pour éviter l'objectivisme, eh bien Pierre Bourdieu recommande de se situer dans l'activité réelle comme telle et d'essayer d'en comprendre ce qu'il appelle le sens pratique. Et c'est ce que je vais, si vous voulez bien, essayer de faire avec vous aujourd'hui. Et donc ma première réponse en introduction à la question qu'Antoine m'a envoyée, c'est de dire ceci, au sens de l'éducation populaire, l'activité d'alphabétisation, comme on dit, hein, donc une éducation non formelle, est, d'après moi, la mise en œuvre d'un sens pratique qu'on a guère de chance de comprendre si on n'abandonne pas la position souveraine de l'observateur qui se met au-dessus et qui tente de décrire l'exécution à laquelle il assiste. Et je vais faire cette tentative en m'appuyant sur la position politique qui est la mienne, c'est-à-dire le directeur d'une association d'éducation permanente, RTA Namur, créatrice de Lire et Écrire Namur. Hein, bon. Et donc je vais essayer d'être fidèle à cette création dans les années 70. Donc ma première partie est donc de dire qu'il s'agit, quand on parle de qualité, de déconstruire aussi largement que nécessaire ce concept. Et donc le premier geste de cette déconstruction eh bien, est de constater que ce terme est devenu quasi indissociable du management qui prétend l'assurer partout de manière globale et totale. Alors cette logique managériale, c'est, comme on le sait depuis Boltanski, le texte dans lequel se déploie ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel esprit du capitalisme. Et c'est cette logique dominante qui va conduire, comme je l'ai dit, à construire une pratique d'éducation non formelle comme un objet à observer de l'extérieur, etc., etc. Alors, j'ai une toute autre définition de la qualité, j'essaierai de la déterminer. Pour moi, la qualité, c'est une c'est la définition du dictionnaire, c'est la manière d'être qui est la propriété de quelqu'un. Et donc, je vais définir la qualité du travail d'éducation non formelle comme la propriété des travailleurs, qui correspond à leur manière d'être et à leur choix. Alors, la qualité version européenne, moi, je l'appelle une créature, au sens de Michel Calon, vous voyez, c'est-à-dire une invention de laboratoire, de laboratoire de pseudo-sciences sociales, qui créature qui fait l'objet d'une intense activité d'insertion, assortie quand même, je le montrerai dans les textes, d'une activité de chantage. Quoi. Bon, vous devez l'accepter parce que si vous ne l'acceptez pas, ta. Alors, il est difficile pour moi de nier que cette créature a été introduite dans le redéploiement du capitalisme dans les années 90, qui a adopté la forme de plus en plus du réseau. Pour comprendre de quoi on parle, il suffit de se souvenir de l'affaire Caterpillar. Et dans la fermeture de Caterpillar, le fait que Caterpillar se soit déployé en entreprise réseau avec de nombreux sous-traitants permet que la question sociale qui devra être débattue ne va pas concerner les 10 sous-traitants. Hein. Bon, vous voyez, c'est assez pratique. Donc, le nouvel esprit du capitalisme déconcentre, vous voyez, donc on amaigrit l'entreprise en créant une nébuleuse de satellites. Et il faut, donc comme ça, on n'a pas de lien à assumer, mais par contre, on continue à vouloir exercer le pouvoir sur les satellites. Et la créature qualité, c'est ça qu'elle permet. Hein, puisque, si vous voulez, avec ces contrats qualité, on gagne sur les deux tableaux à la fois. Hein, donc, on n'est plus responsable des sous-traitants, des satellites, des intérimaires, etc., etc. Mais on peut leur imposer ce qu'on veut en déterminant des formats et en maintenant les satellites sous un joug qu'on pourra toujours placer sur d'autres bêtes de somme si nécessaire. Alors, quand on voit l'immense littérature managériale sur la qualité, qui est souvent hallucinante, hein, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a même tendance à construire une vision totale de la qualité totale. Bon, quitte à convoquer une certaine philosophie à la rescousse. Donc, j'ai trouvé un texte d'un brave assistant au département de philosophie de l'université de Cocody qui, en 2005, commente un livre, Les outils, les cercles de l'amélioration de la qualité. Alors, bon, avec ça, ça devient quelque chose de tellement confus qu'on se demande où on est encore. Donc, je le cite, hein, bon, avec plaisir. La qualité du produit ou du service devient en fait le sous-produit de toutes les qualités de l'entreprise. Vous voyez, donc le contenant devient le contenu devient le contenant. Bon, ok. Alors, toutes les qualités de l'entreprise de quoi on parle, qualité de conception, qualité de réalisation, qualité des hommes, qualité de l'organisation, qualité de la vie au travail, qualité du management, qualité des relations. Ainsi, la qualité va au-delà d'un facteur déterminant de compétitivité et devient un véritable mode de vie, une démarche culturelle, je souligne. Et quand on y réfléchit un peu, cette énumération émerveillée dépossède les travailleurs d'un certain nombre d'actions qui leur appartiennent. Hein, les sociologues du travail ont montré que pour les travailleurs, les valeurs du travail sont au moins au nombre de trois. Un, pour eux, ce travail représente une contribution à la production de la société, il a une utilité. Deux, il est l'occasion d'exercer la créativité autonome des travailleurs, qui s'organisent entre eux pour sortir la production, souvent de façon plus efficace que les ingénieurs, je le dis au passage, ça a été observé souvent. Et troisièmement, le travail est l'occasion d'exercer ce qu'on appelle des socialités libres, c'est-à-dire des rencontres informelles qui échappent au contrôle de la maîtrise. Alors, vous voyez, si je vous relis l'énumération émerveillée de notre assistant, là, bon, vous voyez que dans sa conception de la qualité, on intègre ces dimensions qui appartenaient autrefois aux travailleurs. Donc, je relis, qualité de conception, qualité de réalisation, qualité des hommes, qualité de l'organisation, qualité de la vie au travail, qualité du management, qualité des relations. Vous voyez, donc, cette vision totale, hein, de la qualité totale est en fait une entreprise de dépossession et d'intégration. Alors, je vous passe l'éloge du management participatif, c'est encore plus rigolo, j'essaie de contrôler mon temps. Et il me semble devoir, à l'honnêteté intellectuelle, de dire que lorsque cette conception de la qualité est transposée dans le rapport entre État et association, nous entrons alors dans un processus que l'analyse institutionnelle appelle transversalité négative. Donc la transversalité négative, c'est le fait que on dénie qu'une organisation remplit une fonction officieuse alors qu'elle le fait vraiment. Et ici, il s'agit, ni plus ni moins, hein, allons au bout du raisonnement, d'imposer aux associations un mode d'organisation néo-capitaliste dont elles ont pour qualité de se distinguer, si ce n'est de le combattre. Hein. Bon, alors, trois caractéristiques permettent de repérer la présence d'une telle transversalité négative, selon moi. C'est le fait qu'on s'esbaudit devant la promotion de l'impermanence. Hein, donc, aujourd'hui, on se félicite que plus aucun lien n'est permanent. Donc, vous voyez, par exemple, en éducation permanente, l'exposé des motifs en 2003 disait, voilà, les associations vont être financées à durée indéterminée pour l'emploi et le fonctionnement, et elles auront un financement variable pour les activités. En fait, tout est devenu variable, hein, et rien n'est assuré à durée indéterminée. Et on s'en félicite, pensant sans doute que nous avons besoin d'être contraints pour être créatifs. Bon, donc vous voyez, dans cette conception-là, le lien n'est pas fait pour durer, il n'est pas conçu pour durer. Deuxième caractéristique de cette présence de transversalité négative, l'activité voit son sens réduit à l'exécution d'un patron qui est conçu en dehors d'elle et avant la réalisation de l'action. Vous voyez, et donc on va fixer un état initial et vérifier à la finale que l'état initial est bien présent. Et on va évidemment installer une logique de sous-traitance qui inféode l'association à l'État, qui est désormais défini comme un donneur d'ordre au profit de citoyens clients. Alors, je ne fais pas, en disant cela, un procès d'intention. Je m'appuie, c'est ma page suivante, sur trois versions de ce qu'on a appelé le CAF, en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques. Je ne vais pas vous lire le truc. J'ai pris, donc, il a été adopté pour la première fois en 2002, revu en 2006, re-revu en 2013. Alors, bon, le début de la citation, que vous n'avez pas au tableau, je pense, hein, c'est, on se réjouit toujours que ça augmente, que ça s'étend, etc. Donc, à la fin des années 90, les ministres chargés de l'administration publique dans les pays de l'Union ont invité le réseau des administrations publiques à promouvoir les échanges et la coopération entre les États membres de l'Union et à développer des instruments communs pour la gestion de la qualité. Voilà, nous y sommes. Un premier produit de la coopération entre experts nationaux a été présenté en mai 2000. Il s'agit d'un instrument européen concret, certainement, hein. L'abstraction, c'est le défaut majeur. Concret et commun de gestion de la qualité destiné au secteur public et développé par le secteur public. Alors, depuis plus de 12 ans, près de 3000 institutions du secteur public dans toute l'Europe utilisent ce modèle et le nombre d'utilisateurs du CAF ne cesse d'augmenter. On s'en réjouit. Ils ont été un peu contraints. Hein. Faut pas oublier de le dire. Hein. Mais plus préoccupant, le CAF. Donc ça, je pense que vous l'avez là, oui. Donc le CAF doit générer un processus complet d'amélioration continue. Waouh ! Complet et continu. Au sein de l'institution, il répond à 5 objectifs principaux. Je vais insister sur le quatrième. 1. Initier les administrations publiques à la culture de l'excellence. Donc on suppose qu'avant, elles avaient la culture de la médiocrité. Et au principe de la gestion totale de la qualité. 2. Les guider progressivement vers un cycle PDCA. Plan, Do, Check, Act. Rigole, hein. Donc on planifie, on fait, on contrôle et puis on adapte. Complet, hein, cycle complet. Faciliter l'auto-évaluation de l'institution publique. Et 4, permettez-moi d'insister, servir de pont entre les différents modèles utilisés pour la gestion totale de la qualité, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. On ne sait pas mieux dire que la visée explicite et bien d'installer une transversalité négative et donc d'essayer d'imposer aux services publics un fonctionnement qui aboutit à marchandiser leur action, puisqu'on va la requalifier en exécution planifiée, plan, do, check, act, d'une production de biens et de services au mépris de la visée dont ils sont le résultat. Alors, en disant ce que je viens de dire, on est souvent soumis à une forte critique. Hein. Donc ce que je viens de dire, c'est dire cette créature qualité, elle a un sens politique. Et elle se présente comme une amélioration objective et rationnelle. Et donc elle répond à ce que Bourdieu appelait une politique de dépolitisation, c'est-à-dire une politique qui ne dit pas son nom. Et quand on donne le nom de cette politique, évidemment, on est souvent l'objet d'un certain nombre de reproches. Ces reproches, je vous le disais tout à l'heure, avoisinent souvent à une position de chantage. Donc on dit souvent, si vous rejetez ça, si vous rejetez la créature qualité pour ce qu'elle est, c'est que peut-être votre travail est sans qualité ou que vous avez peur hein, de que ce travail soit évalué en termes de qualité. On connaît, on vient de le vivre, hein, ce type de chantage permanent, notamment au niveau européen, hein, puisque l'argument est d'abord, 1, pourquoi ne pas accepter ce que d'autres ont déjà accepté ? De quelle peur ce refus cache-t-il chez vous ? Nous avons vu tout récemment, par exemple, que les objections au CETA étaient présentées comme irrationnelles, puisque 27 pays sur 28 étaient supposés l'avoir accepté. Un peu éliminer les objections des autres. Et ensuite, on a requalifié les objections de la région wallonne, notamment, et de la région bruxelloise, en rejet, ni plus ni moins, en rejet des échanges et en souci de fermeture sur soi. Et donc, le rejet de la notion de qualité, en raison de sa forte transversalité négative, est souvent requalifié en recherche de l'impunité, vous ne voulez pas du contrôle, et en recherche du confort, vous rejetez l'excellence. Et donc, nous sommes confrontés alors à un dilemme, soit est-on condamné, si vous voulez, à accepter l'inacceptable, ce que je pense est inacceptable, ou à se voir délégitimé en disant, bon, vous avez peur, vous ne voulez pas de l'évaluation, c'est du Sarkozy tout pur. Hein. Si vous vous souvenez, il voulait évaluer ses ministres, notamment en calculant l'impact des politiques culturelles et en imposant, ils avaient payé cher et vilain une firme privée pour formuler ces indicateurs brillants. Donc la mise de la culture française devait être évaluée au nombre d'entrées dans les cinémas pour les films français. Oui, enfin, vous voyez le rapport entre... Enfin bon, voilà. Mais on en est souvent là. Moi, je dis souvent, si ça continue, on va évaluer la réforme des services d'incendie à la diminution du nombre d'incendies. Hein. Bon, ça n'a pas à voir grand-chose. Bon, mais bon, peut-on échapper à ce dilemme? Et donc, je vais essayer, dans un deuxième temps de mon exposé, de répondre oui. Hein. Et donc, en prétendant, avec force, si vous me le permettez, que la recherche de la valeur dans l'action associative n'est pas absente, ne date pas non plus d'aujourd'hui, hein, et notamment dans l'éducation non formelle. Mais pour comprendre ce qu'est réellement cette recherche de la valeur, il faut revenir, alors non pas à un objet d'observation construit de l'extérieur, mais à ce que Pierre Bourdieu appelle la connaissance pratique, c'est-à-dire la manière dont les agents construisent des systèmes de classement qui les guident dans l'exercice pratique de leur action. Et je voudrais, vous l'avez là, en rouge, insister sur une partie du raisonnement de Bourdieu, je pense que vous en avez parlé ce matin, hein, qui dit ceci, produit par la pratique des générations successives. Je souligne. Hein, les pratiques d'éducation non formelle sont les héritières des pratiques de l'éducation populaire. Ils n'existent pas d'aujourd'hui. Donc, produit par la pratique des générations successives dans un type déterminé de conditions d'existence, ces schèmes de perception, d'appréciation et d'action. Vous voyez, donc ça c'est ce que les agents engagent dans l'action. Donc ils engagent des systèmes pratiques, hein, implicites, de classement et de guidage. Donc ces schèmes sont acquis par la pratique et mis en œuvre à l'état pratique sans accéder à la représentation explicite. Et ils fonctionnent comme des opérateurs pratiques à travers desquels, et ça j'y insiste aussi, les structures objectives dont ils sont le produit tendent à se reproduire dans les pratiques. Donc c'est bien du respect de ce sens pratique que dépend la reproduction, par exemple, en français, de l'éducation populaire qui a inspiré et qui inspire, je l'espère, les pratiques d'éducation non formelle, comme je vais essayer de le montrer. Et donc, la qualité d'une éducation non formelle, je propose de la considérer, un, comme une manière d'être, okay, pas de faire, une manière d'être, qui est une propriété et qui est la propriété des générations successives qui, en l'occurrence, ont fait et font l'éducation populaire. Je propose de considérer que cette manière d'être s'incarne dans l'usage de schèmes de perception, d'appréciation et d'action qui fonctionnent à l'état pratique et de dire qu'ils ont pour enjeu la reproduction de cette manière d'être. Alors, évidemment, pour avoir une chance de comprendre ça, il faut s'intéresser au sens pratique et à rien d'autre. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire en trois temps. D'abord, un cadre général, ensuite, des principes un peu plus précis, et enfin, des paris qui incarnent ces principes. Et j'aurai, je l'espère, montré qu'il n'est pas impossible d'échapper au dilemme que je critiquais tout à l'heure. Voilà. Alors, bon, n'allons pas chercher midi à 14 heures hein, pour définir la manière d'être de l'éducation populaire. Revenons au classique, c'est-à-dire à définition par Marcel Ictet de la démocratie culturelle. Et j'ai le plaisir de vous en rappeler 4 ou 5 lignes. Mon option, c'est Marcel Ictet qui parle en 1972. Et donc, ni la culture pour tous, pas ça, ni la culture pour chacun, mais la culture par chacun et avec chacun, dans une optique de développement de tous. Donc il n'y a pas, rappelle Lichter, de culture extérieure à l'homme, pas de matière culturelle à quoi il faut faire accéder le peuple, qu'il faut porter au peuple, que l'on puisse contreplaquer sur le peuple. Vous voyez, parce que c'est souvent ça qu'on pense. C'est au contraire le sens des responsabilités au sein de nos diverses communautés. Cette culture-là, elle exige envers les autres une attitude d'accueil et de dialogue, je vais l'expliciter tout à l'heure, et donc il s'agit de contester la notion patrimoniale de la culture, et donc dans l'éducation non formelle, de dire qu'il ne s'agit pas de supposer chez le bénéficiaire un vide qu'il conviendrait de remplir en mesurant si la coupe est pleine. Bon, c'est pas ça le job. Bon. Et donc, Jean-Pierre Nossand, qui rappelait cette définition, la crédite d'être un changement paradigmatique, un changement de modèle, et qui conduit à affirmer le principe de pluralité, de diversité, d'égalité des cultures. Et donc, il me semble que si on observait le sens pratique des actions d'éducation non formelle, telles qu'elles sont les héritières de l'éducation populaire, il me semble, ça a été rappelé le matin, on pourrait probablement en définir quelques-uns, et je voudrais vous dire que, d'après moi, ces principes ne constituent pas les composantes de l'action, donc ce ne sont pas ce que font les formateurs, mais ces principes désignent des relations et des propriétés de relations entre tous ceux que ces pratiques concernent. Et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Alors, je vous ai mis, vous les avez là, et je vais chaque fois donner... quelques exemples. J'ai encore combien de temps? Demi-heure? Non, un quart d'heure. Bon, je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement, en tout cas, donc de pas passer trop de temps sur les exemples. Donc le premier principe structurant à l'état pratique, j'y insiste bien, c'est de garantir la réciprocité d'apprentissage des cadres. Oui, il n'y en a pas qui apprennent à d'autres ce qu'ils ne savent pas. C'est bien quelque chose de réciproque. Donc, il n'y a pas de relation d'un plein à un vide à combler. Il y a une tentative d'échange et de construction égalitaire à partir de cadres pratiques différents. Et donc, le premier principe structurant d'une éducation non formelle qui serait soucieuse de son héritage pourrait être la question suivante. Que devons-nous mettre en place pour pouvoir apprendre les uns des autres ce que nous ne connaissons pas au début de l'action? J'insiste. Bon, le deuxième principe serait d'assurer une présence à l'autre avec suffisamment de symétrie, c'est-à-dire organiser les conditions d'une vraie rencontre. À la même époque que Marcel Lichter, Amilcar Cabral, en Guinée, appelle son peuple à une résistance culturelle envers le colonialisme portugais, et il s'agit pour lui d'un vaste projet d'éducation non formelle. Je le cite. « Nous ne devons pas laisser la tâche de transmettre des connaissances au seul professeur. Nous devons profiter de la conversation d'un camarade. Et ceux qui ont beaucoup travaillé avec moi, qui me connaissent bien, savent que c'est ainsi que j'ai l'habitude d'agir dans la vie. Donc, d'un camarade de quelque niveau que ce soit, pour en faire l'analyse, pour en tirer une leçon, où l'un et l'autre apprend quelque chose. Chacune de nos conversations doit être une leçon, ainsi pourrons-nous gagner du temps et progresser. Et pour Amilcar Cabral, la vraie rencontre, le dialogue, n'excluait en rien le conflit. Cela va sans dire. Donc, je cite aussi, camarades, nous devons beaucoup travailler à liquider en nous-mêmes la culture coloniale. Que nous soyons des hommes de la ville ou de la brousse, le colonialisme nous a inculqué beaucoup de choses dans la tête, et il nous faut en enlever ce qui ne va pas et y laisser ce qui est bon. Car le colonialisme n'est pas entièrement à rejeter, nous devons être capables cependant de combattre la culture coloniale et de préserver dans notre esprit cet aspect de la culture humaine scientifique que les Tugas, les Portugais, avait peut-être trouvé chez nous et qui nous pénétra également. Vous voyez, c'est tout un travail de confrontation où on va en garder et en laisser. Un troisième principe structurant me paraît être ne pas céder, ne jamais céder, sur l'exigence d'articulation possible de l'analyse et de l'action. L'éducation non formelle dont nous parlons ne se situe pas exclusivement dans le registre de la connaissance. Elle vise, me semble-t-il, à ouvrir des possibles, à rendre possible le passage à l'action qui n'est jamais assuré. Pour moi, c'est Michel de Certeau qui a le mieux formulé ce principe. Je cite trois lignes. On ne peut pas dissocier l'acte de comprendre l'environnement et la volonté de le changer. La culture en reçoit une définition. Il n'est possible de dire le sens d'une situation qu'en fonction d'une action entreprise pour la transformer. Une action sociale est donc la condition d'une production culturelle. Vous voyez ici ce qu'est un principe de classement à l'état pratique. Vous voyez, le principe de classement proposé par Michel de Certeau, c'est de ne jamais disjoindre et donc de mettre dans la même catégorie comprendre et changer, sens et action, social et culturel. Voilà. Il me semble qu'il convient aussi de nommer à l'état de principe structurant la possibilité, la nécessité d'inscrire l'action possible dans un cadre libre. La démocratie culturelle, rappelons-le, s'est aussi construite contre ce que Goffman appelait l'embrigadement, soit le fait que toutes les activités soient programmées d'en haut et que leur exécution conforme soit contrôlée. Goffman, vous en souvenez, dans son grand livre « Asile », il avait partagé pendant 2 ans la vie des malades mentaux dans un hôpital fermé de Chicago, a appelé ce genre d'institution des institutions totales, si ce n'est totalitaires. Et je vous donne la définition qu'il en proposait. Les différentes activités ainsi imposées sont regroupées selon un plan unique et rationnel, consciemment conçu pour répondre au but officiel de l'institution. Le caractère essentiel des institutions totalitaires est qu'elles appliquent à l'homme un traitement collectif conforme à un système d'organisation bureaucratique qui prend en charge tous ses besoins, quelle que soit en l'occurrence la nécessité ou l'efficacité de ce système bureaucratique. Excusez-moi, mais j'ai un peu tendance à penser que le cadre total de la qualité totale correspond assez bien de temps en temps à cette définition. Et donc, la liberté du cadre implique au contraire, selon moi, que le bénéficiaire soit reconnu comme un partenaire de plein droit, y compris à propos de la définition du cadre de l'action et de son inscription dans ce cadre-là. Le bénéficiaire doit rester libre de s'y engager et de s'en dégager s'il le souhaite. Et à ce titre-là, j'en profite pour redire qu'un arrêt de formation, de ne pas être interprété unilatéralement comme une rupture de contrat avec sanction à la clé, mais comme l'exercice de la liberté d'inscription dans un cadre librement défini. Ça, c'est quand même un enjeu politique que nous aurons intérêt à remettre au goût du jour. Autre principe, dernier principe, c'est l'articulation de l'individuel et du collectif. Je sais bien que le temps de la conscience fière ouvrière est un peu derrière nous. Le public populaire subit l'atomisation et l'isolement. Il n'en reste pas moins que la dimension collective reste cruciale. Mais elle est évidemment imprégnée des principes de réciprocité, j'en ai parlé, de symétrie dans la relation, d'articulation possible à l'action et de liberté. Et donc, ces collectifs-là, avec lesquels nous entrons en relation, créent leur identité dans l'expérimentation d'eux-mêmes. C'est en se cherchant eux-mêmes qu'ils se donnent une consistance subjective, comme dit Félix Guattari, et qui permet de donner sens et consistance à ce dialogue de personne sociale à personne sociale. J'ai trouvé les propos d'une syndicaliste chicano, Dolores Huerta, extrêmement claire à ce propos. Elle dit ceci, « Les femmes devraient toujours se rappeler qu'en sachant se débrouiller, on sait tout faire, qu'on ait de l'expérience ou non. » César Chavez, donc le leader du syndicat, dit toujours que la première éducation du peuple, c'est de savoir comment être le peuple. Le reste vient tout seul. Alors, ces principes structurants, les groupes fondateurs d'eux-mêmes me semblent s'auto-imposer à l'état pratique un certain nombre de conditions qui régissent leurs actions. Vous voyez, on est bien au-delà de la recherche d'une qualité définie de l'extérieur. Donc, on s'auto-impose des conditions bien plus nombreuses, bien plus contraignantes que dans d'autres logiques d'action. Et il me semble que ces conditions, elles sont exprimées légitimement dans des paris, pas dans des programmes. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, c'est pas oublié. Donc elles sont exprimées dans des paris et dans la recherche de positions qui incarne les chances de gagner ces paris. Et donc, vous voyez, la logique plan, do, check, act tombe complètement à plat dans ce genre de contexte. Ça n'a, me semble-t-il, rien à voir. Donc, ici, on tente de défaire ce que le monde social a fait dans ses inégalités et sa domination. Et donc, il m'a semblé qu'en éducation non formelle, on pouvait peut-être identifier à l'état pratique un certain nombre de paris où on essaye de se donner, de réunir les conditions de ce qu'on va appeler une réussite, mais c'est-à-dire la rencontre d'un nombre extrêmement élevé d'exigences. Alors, le premier pari me paraît être un pari sur la mixité des groupes ou sur l'hétérogénéité. Et pour éviter, je recite Bourdieu, le redoublement de la dépossession, puisque Bourdieu nous rappelle que le rassemblement en un même lieu d'une population homogène dans la dépossession a aussi pour effet de redoubler la dépossession, notamment en matière de culture et de pratiques culturelles. Et donc, il faut oser parier sur l'hétérogénéité. Alors, il faut également, me semble-t-il, oser parier sur l'écoute créative. Ce qu'on entend par écoute créative, c'est pas un machin psy, hein, c'est une façon de produire du sens. Alors, j'ai trouvé le meilleur exemple, me semble-t-il, enfin, je ne peux pas vous faire mieux aujourd'hui, dans la manière dont Rosine Christin, qui était une des enquêtrices qui a produit l'immense ouvrage La misère du monde, publié en 1993, et donc Rosine Christin explique comment elle a vécu un dialogue avec la femme d'un ouvrier sidérurgiste lorrain qui avait perdu son emploi. Et voilà ce qu'elle en dit. En écoutant Maryse, donc c'est cette dame, j'étais souvent frappé par l'analogie entre cette vie singulière et le destin collectif de toute une région. Lorsqu'elle me parlait d'elle, elle me donnait à voir, réfractée par le prisme des préoccupations féminines, la vie de l'ouvrier qu'avait été son mari, et plus généralement, la réalité d'un monde qui se défaisait. Il m'est apparu qu'il fallait écouter autrement ceux qui, comme Maryse, n'ont pour évoquer une vie pénétrée par l'histoire collective que des paroles privées, des petites histoires, des histoires de femmes, toujours exclues de l'histoire avec un grand H, même quand elle est écrite par des femmes. Et vous voyez, il me semble que cette écoute créative, elle correspond à ce que Mills appelait l'imagination sociologique, c'est d'être capable de voir dans les petites histoires, dans le vécu le plus quotidien, le sens social réfracté, et d'interroger à partir de là les structures, les violences de structures et leurs effets. Et je voudrais dire, enfin, je suppose qu'ici, on ne me dirait pas, mais peut-être, que la technicité des apprentissages ne permet pas ce genre d'écoute. Dans ce cas-là, j'inviterai quand même chacun à se rappeler que les activités les plus techniques contiennent toujours un sens social réfracté, quel que soit le degré de technicité de celle-ci. Alors, autre auto-imposition, c'est l'audace de faire droit à la capacité d'analyse de chacun. Alors, je vais retrouver pour l'illustrer une citation de Bourdieu, 1990. Je dis 1990 parce que vous mettriez 2016, c'est un peu la même chose. Alors, Bourdieu nous dit « Les dominants sous-estiment presque inévitablement la lucidité des dominés. Et il faudra quelques grands cataclysmes politiques, ce que les commentateurs appelleront un raz-de-marée électoral, pour que les dirigeants qui se sentent mandatés par la base pour l'éclairer et l'animer découvre enfin que la base n'ignore nullement, que loin d'exprimer ses vues, ses vœux, ses volontés, les dominants lui imposent leur vision et surtout leur division, et qu'aveuglés par les passions et les intérêts liés à leur pouvoir et à la concurrence pour les conserver et les augmenter, quand ils ne sont pas tout simplement enfermés dans leur certitude technocratique, ils ignorent toujours l'impitoyable vision des militants invisibles. » Belle citation. Alors, autre pari, le pari sur la possibilité d'un groupe de se vivre comme un groupe sujet. Donc, le groupe sujet, c'est l'expression de Félix Guattari, c'est celui qui tend à ne pas être totalement dominé par une loi extérieure, mais pas non plus conduit par une loi intérieure avec des phénomènes de leadership et de confiscation des échanges par certains. Je pense, j'ai presque terminé, que il faut noter aussi un pari d'ouverture sur la production éventuelle du groupe en termes d'action ou d'effet. quand je dis production éventuelle, elle est toujours libre. Et il me semble que les groupes hein, qui procèdent, qui s'impliquent, qui s'engagent dans, avec des professionnels dans des processus d'éducation non formelle, peuvent produire une grande variété d'actions. Il faut y faire droit. Et il me semble que, puisqu'ils ne savent pas, et puisqu'ils s'imposent de ne pas savoir, à l'initial, ce qu'ils peuvent apprendre les uns des autres, puisqu'ils s'imposent un environnement de liberté, ben, tous les protagonistes d'un groupe en éducation non formelle vont, me semble-t-il, avoir à cœur de rester ouverts à la possibilité pour le groupe de produire ce qu'il entendra décider produire et de confronter éventuellement cette production dans l'espace public. Hein, la variété des productions est quasi infinie, donc on peut aller sur une nouvelle intensité de désir. Hein, Pierre Bourdieu parle de se sentir justifié à exister, c'est quand même formidable. À une extension des revendications premières, j'ai cité Dolores Huerta tantôt, elle disait « Moi, quand je négocie, j'amène toujours des revendications tout à fait inattendues, ouais, tout à fait hétérogènes. » Ou bien on essaye de passer d'un niveau de réflexion à l'autre, par exemple, de se donner la capacité d'attribuer sa souffrance à des causes sociales dont l'effet commun est repérable dans le groupe, et on peut ainsi souvent sortir d'une culpabilisation individuelle que le néo-capitalisme s'ingénie à faire produire à trop de services publics aujourd'hui. Alors, bon, mon dernier point serait de dire qu'il faut aussi essayer en éducation non formelle de se penser comme un élément d'une chaîne d'institutions. Tout ce que je viens de dire ne se passe pas dans une seule institution close sur elle-même, mais au contraire, se passe dans une institution qui fait partie d'une chaîne avec d'autres institutions. Et vous avez en italique, là-bas, cette superbe citation de François Tosquelles, analyste institutionnel, nous rappelant, je cite, « On est toujours membre de plusieurs institutions à la fois et alternativement. On fréquente avec régularité, avec plaisir, avec espoir et déception, diverses institutions. » C'est-à-dire qu'on fréquente à la fois l'espace institué d'origine, l'espace familial, et la chaîne d'institutions de son au-delà concret. Bon, Tosquelles, c'est l'inventeur de la psychothérapie institutionnelle, hein, donc en milieu ouvert. Donc ces exemples parlent de cette logique-là. Hein, donc l'au-delà concret, c'est par exemple l'institution qui relie la maison voisine ou la plus lointaine avec la chaîne institutionnelle du coiffeur du coin, du bistrot, de la gare, du théâtre ou du cinéma. Et c'est cette phrase qui m'importe. On peut dire que le passage d'une institution à l'autre joue dans le processus de recréation singulière permanente en chacun, joue autant que les échanges attendus, voire facilités, par des espaces institutionnels concrets. Et donc, il me semble que l'éducation non formelle ne se construit jamais dans un seul espace concret, mais qu'elle s'inscrit plutôt dans une chaîne avec laquelle et dans laquelle elle interagit. Et on devrait probablement même parler de chaîne au pluriel, puisque ces chaînes diffèrent selon les individus qui composent le groupe, surtout s'il est hétérogène. Et il me semble, pour terminer, pour vous soumettre ces deux formules, que ce sont donc dans ces effets en chaîne, dans la manière de les faire vivre, de les transformer, que se trouve, en dernier ressort, la manière d'être, qui est la propriété des agents, des travailleurs de l'éducation non formelle, telle qu'elle est une des héritières générationnelles de l'éducation populaire. Et plutôt, si vous voulez bien m'accorder cela, que s'obséder à mesurer des pseudo-résultats hein, d'une action réputée propre, hein, voyez, conçue comme isolée, on aurait tout à gagner à tenter de reconstituer à l'état pratique le cadre non linéaire dans lequel on se trouve, dans les chaînes d'institutions qu'on anime et avec lesquelles on risque des paris. Cette conception que j'ai essayé de vous partager s'oppose fermement, politiquement, hein, à la logique de maîtrise et à la logique programmatique que d'aucuns voudraient imposer à l'action associative aujourd'hui, avec pour effet probable, je le crains, de détruire le sens de cette action, qui est pourtant la condition première des chances de gagner les paris audacieux et nécessaires qui sont des siens. Je vous remercie.
Merci Jean.